15h10 sur RFI et on vous retrouve, Michael Ponge, pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Juliette, il est 9h10 à Cap-Haïtien.
Édition spéciale sur RFI.
Journée d'hommage national ce vendredi en Haïti, un peu plus de deux semaines après la mort de Jovenel Moïse. Le pays fait ses adieux au président assassiné le 7 juillet dernier chez lui, à Port-au-Prince. Cérémonie qui se déroule dans la région de Cap-Haïtien au nord d'Haïti où nous serons dans un instant. Vous l'avez compris, RFI vous propose un rendez-vous spécial avec à mes côtés pour m'accompagner Marie Normand du Bureau Amérique, Godson Pierre d'Alter Press que l'on va retrouver à Port-au-Prince et notre invité, l'historien Marcel Dorigny. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On est ensemble jusqu'à 14h30. Soyez tous les bienvenus.
Cap-Haïtien, 100.5 FM.
C'était hier en la cathédrale capoise, une messe célébrée à la veille de ses funérailles nationales. Aujourd'hui, depuis mercredi en fait, Cap-Haïtien rend hommage à Jovenel Moïse, événement couvert par de nombreux journalistes, dont fait partie Donald Germeus qui est avec nous. Donald, vous vous trouvez dans la résidence privée de la famille Moïse en périphérie de la ville. C'est là que la cérémonie se déroule, elle va commencer officiellement et très concrètement maintenant d'ici une cinquantaine de minutes, mais il y a déjà beaucoup de monde qui est installé devant les stands qui sont, Donald, devant vous. Martine Moïse, la veuve du président, est présente aussi, et le cercueil, Donald, est exposé au centre des jardins maintenant depuis une heure environ.
Exactement, le cercueil, il est déjà là, et autour de ce cercueil-là, il y a des militaires des forces armées d'Haïti qui prennent place, qui montent la garde, juste au milieu de l'espace réservé pour les funérailles. Donc, il y a 9 stands qui sont construits, il y a des chaises qui sont arrangées devant ces stands-là, donc pour que les personnes prennent place. Donc, ça forme un rectangle, et au beau milieu, il y a un autre stand qui est construit, c'est là où le cercueil est exposé.
Oui, cercueil recouvert du drapeau haïtien, entouré d'officiels qui vont se recueillir devant ce cercueil, notamment le nouveau Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement. Les délégations, Donald, sont en train d'arriver. Expliquez-nous comment va se dérouler cette journée.
Bon, la cérémonie est divisée en deux parties. Il y a une partie religieuse et une partie civile. Donc, dans la partie religieuse, il va y avoir des prêtres qui vont s'occuper. Et de la partie civile, donc là, il y a déclamation de poèmes. Et il y a également des propos de la première dame. Et enfin, il va y avoir des honneurs militaires, l'hymne national. Enfin, il va y avoir l'inhumation du corps.
Oui, je le précise, là c'est Léon Charles, le chef de la police nationale haïtienne, qui vient à l'instant d'arriver et de s'installer devant cette tribune. L'inhumation du corps de Jovenel Moïse, vous nous le disiez, Donald, aux côtés de son père Étienne, disparu lui l'an dernier. Inhumation qui est prévue aux alentours de 13h heure locale. Donald, une dernière chose, pour vous rendre dans cette résidence privée de la famille Moïse, vous avez dû traverser Cap-Haïtien. Une grande tension régnait hier dans la ville. Qu'en est-il ce matin?
Ce matin, tout est calme. Les rues étaient désertes, puisque les gens sont toujours sur le qui-vive, mais on n'a pas remarqué aucune barricade, aucun obstacle sur la route. Et la police est sur place. Il y a un fort dispositif de sécurité. On a remarqué des patrouilles fixes de la police jusqu'au jardin où vont se dérouler les funérailles.
Donald Germeus sur place, donc dans cette résidence privée de la famille Moïse. Merci beaucoup. Cette tension de ces dernières heures, Marie Normand, qui semble donc, on l'entend, être quelque peu retombée. Néanmoins, la presse haïtienne et étrangère aussi s'en est fait l'écho de cette tension, Marie.
Oui, avec des photos de véhicules de la police et d'autres véhicules renversés, des pneus enflammés dans le New York Times et le Miami Herald aujourd'hui, des véhicules de diplomates et d'officiels haïtiens on le sait, ont été la cible de jets de pierres hier. Des pneus ont été enflammés sur les grandes artères de la ville. Des riverains avaient érigé des barricades sur les routes nationales qui menaient à la ville. Le cortège du Premier ministre, tout juste entré en fonction, Ariel Henry a dû se frayer un passage tant bien que mal hier. Barricades qui, vous l'avez entendu d'après Donald Germeus, ont au moins été partiellement levées. Et mercredi, c'est le véhicule du chef de la police nationale qu'on a vu arriver dans les tribunes il y a quelques minutes, qui avait essuyé des jets de pierres, qui avait été visé par des insultes. En fait, cette colère, elle semble se diriger particulièrement vers des officiels venus de Port-au-Prince, venus de la capitale, symbole de l'ouest du pays, accusés de ne pas avoir su protéger ce chef de l'État qui est venu du nord.
Et tout cela s'ajoute aussi à l'insécurité ambiante qui pèse en Haïti, si bien que certains ont hésité à faire le déplacement pour assister à cette cérémonie. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'ancien sénateur du Sud-Est, Edwin Daniel Zeni. C'est son cas, il l'a dit hier à Ginette Lafontaine. Il ne savait pas encore s'il allait se rendre ou pas à Cap-Haïtien.
C'est important pour moi d'assister aux funérailles du président de mon pays. Mais vu la recrudescence de l'insécurité, pour aller à Cap-Haïtien, je dois réfléchir, même si j'aimerais y être.
Marcel Dorigny, historien, je me tourne vers vous. Ce climat, c'est aussi parce que cette cérémonie, en quelque sorte, peut-être, dites-nous, cristallise aussi les passions, les tensions qui animent cette société haïtienne.
Ben oui, je crois. La société haïtienne est dans une tension explosive depuis plusieurs mois, avec des gangs dans les rues, avec des manifestations, avec une contestation de la légitimité du maintien au pouvoir du président Jovenel Moïse, dont le mandat aurait dû se terminer le 7 février, mais il est toujours là, il a contesté la date. Alors, mais cette tension remonte plus loin. Il faut rappeler tout de même que le Cap haïtien, qui s'appelait le Cap français autrefois, était la capitale de la colonie, était la plus grande ville de la Caraïbe coloniale, était une capitale culturelle où il y avait théâtre, il y avait opéra, il y avait des loges maçonniques, etc. Il y avait une comédie, enfin bon, il y avait une vie. Bon. Et cette capitale a été détrônée quelques années après l'indépendance, après la réconciliation entre le Nord et le Sud, après la fin des scissions entre Pétion et Christophe, pardon, et Port-au-Prince a pris le dessus. Et, pardon, excusez-moi. Et aujourd'hui, Port-au-Prince est une ville de plus de 3 millions d'habitants, tentaculaire, gigantesque, qui a absorbé une grande partie de l'exode rural. N'oublions pas que les campagnes se sont vidées d'un excédent de population énorme vers Port-au-Prince, vers la diaspora nord-américaine, etc., mais vers Port-au-Prince. Et au Cap, je crois qu'il y a toujours une certaine méfiance, une certaine nostalgie peut-être de ne plus être la capitale depuis longtemps. Et le Cap est une ville beaucoup plus calme que Port-au-Prince, c'est évident. Et je crois que là, la peur de voir arriver des dizaines de milliers de gens l'ancienne capitale provoque des réactions violentes, irrationnelles peut-être, s'attaquant à la police, etc. Évidemment, ça n'a... Bon,
je vous propose, Marcel Dorigny, qu'on en parle avec quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien, Godson Pierre, le rédacteur en chef du site Alter Press. Bonjour, Godson.
Bonjour, Michael. Bonjour, tout le monde.
Vous êtes avec nous en direct de Port-au-Prince. Dites-nous d'abord, on peut expliquer pourquoi ces funérailles ont lieu aujourd'hui à Cap-Haïtien et non pas à Port-au-Prince. Expliquez-nous.
Eh bien, le Cap-Haïtien, c'est la deuxième ville du pays, donc au nord, ville centrale pour toutes les régions du nord, du nord-ouest, du nord-est. Et Jovenel Moïse naît à Trou-du-Nord, dans le nord-est. Martine Moïse, son épouse, est du nord-ouest. Il fut membre puis président de la Chambre de commerce et d'industrie du nord-ouest. Et puis, à Trou-du-Nord, il crée une zone franche agricole après avoir obtenu un prêt de plusieurs millions de dollars sous le gouvernement de Michel Martelly. Prêts et plantations de bananes ont suscité des controverses, mais ont servi de rampe de lancement pour sa carrière politique. Donc, il est très lié au Nord. Il sera enterré sur une propriété, vous le disiez, de son père. La famille indique que c'était sa dernière volonté également.
Cette famille Moïse, d'ailleurs, Godson, qui a tenu à régler à elle seule l'ensemble des charges financières de ses obsèques. Est-ce qu'il y a une raison à cela, Godson ?
Eh bien, c'est Martine Moïse qui l'a annoncé le 20 juillet. La famille a renoncé à l'appui financier du Trésor public sans fournir d'explication. Et là-dessus, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Est-ce une volonté de se démarquer totalement des structures qui n'ont pas su protéger la vie de Jovenel Moïse par faiblesse, par éventuelle complicité dans ce complot ourdi selon la police pendant plusieurs mois et qui a conduit à l'assassinat sauvage de l'ancien président de facto. Est-ce donc une manière d'éviter d'être l'objet d'une hypocrisie supposée? Bien, dans le meilleur des cas, on devrait peut-être s'en remettre à la tradition qui veut que chacun se charge de l'enterrement de ses êtres chers et de n'avoir en la matière de dette envers personne. Voilà quelques-unes des questions qu'on peut se poser.
Marcel Dorigny commençait à l'évoquer. Godson, peut-être vous pouvez aussi vous nous éclairer au sujet de ces rivalités que semblent réveiller ces funérailles entre le nord et l'ouest d'Haïti.
Alors, il y a quand même une réalité, c'est le cinquième président issu du nord du pays à être assassiné à Port-au-Prince, dans l'ouest. En général, dans le nord, on a un grand sentiment de fierté, puisque c'est quand même un haut lieu historique du pays, le site de la citadelle du roi Henri, même si Jovenel Moïse était très impopulaire depuis quelques années à cause des politiques mises en œuvre qui ont aggravé la crise multidimensionnelle en Haïti, eh bien, des propos rapportaient l'espoir que cet assassinat serait susceptible de raviver la polarisation ville-campagne, d'une part, et même, on peut dire que ce crime risquerait de remettre dans le débat public des réflexions relatives à la question de couleur en Haïti, opposant entre guillemets, masse noire et une partie de l'élite mulâtre.
Godson Pierre, merci beaucoup, rédacteur en chef d'Alter Press. Merci pour ces détails. Je vous fais réagir à cela. Marcel Dorigny, qu'en dites-vous ?
Ben oui, c'est tout à fait une des clés d'explication. Cette rivalité est ancienne. Elle recoupe en partie une rivalité qui vient d'être rappelée ici. Rivalité ethnique, raciale. Le Nord était le bastion principal de la population d'origine africaine, ceux qu'on a appelés, je renvoie au livre de Gérard Barthélémy, les Bossals, hein, ceux qui sont nés en Afrique, dont les descendants sont là, alors que l'Ouest et le Sud est beaucoup plus mélangé, beaucoup plus métissé. Ça se caricature par la République de Pétion au Sud et le royaume de Christophe au Nord. Cette césure, évidemment, a été atténuée parce qu'il y a des mouvements, il y a des migrations, il y a une croissance exponentielle de la population. Rappelons quand même, à l'indépendance, il y a 450 000 habitants, aujourd'hui, il y a 12 millions. Une croissance inconnue ailleurs. Donc c'est énorme. Donc la population s'est mélangée. C'est pas exactement en ligne droite la descendance. Mais cette rivalité, elle existe. Elle est ancienne. Et elle est éclipsée par le poids écrasant de Port-au-Prince.
Rivalité, sociale hein, aussi.
Sociale, bien
cette
sûr.
Cette bourgeoisie contre laquelle s'était érigée d'ailleurs Jovenel Moïse au cours de sa présidence, entamée début 2017. C'est en tout cas, ce que certains retiendront de lui, comme l'a constaté au Gonaïve notre reporter Ronel Paul.
Jovenel Moïse était un héros. Selon Wadly Miton, coordonnateur de la plateforme révolutionnaire de l'Artibonite, qui le compare à l'empereur Jean-Jacques Dessalines.
Dessalines avait dit « Et ceux qui viennent de l'Afrique n'auront-ils donc rien ?» Et c'est exactement ce que disait Jovenel Moïse. Certes, c'est la bourgeoisie qui avait financé sa campagne, mais il se mettait malgré tout aux côtés du peuple. Et c'est ça qui a déclenché son assassinat.
Tu t'as pas assassiné quand même.
Pour Claude Dipierre, un habitant des Gonaïves, Jovenel Moïse était un bâtisseur.
En pleine Gonaïve là,
si je me mets à citer des réalisations de Jovenel Moïse, je n'en finirai jamais. Prenons l'exemple de la plaine des Gonaïves. Il n'y avait pas d'eau pour arroser les jardins, mais Jovenel y a installé des pompes solaires. Quant à la route entre les Gonaïves et Port-de-Paix, qui a asphalté cette route? C'est encore le président Moïse.
Tout au long de son mandat, Jovenel Moïse disait mener une lutte contre des bourgeois qui nuisent à l'administration publique, ce que Jacques Rubens Bordenave n'ignore pas. Mais Jovenel Moïse ne trouve pas grâce à ses yeux.
Il a passé tout son temps à promettre des choses telles que électricité, route et autres. Malheureusement, on met des lunettes, on cherche ses réalisations et on ne les voit pas. Je peux dire qu'il a beaucoup menti à la population haïtienne et effrontément comme une arracheur de dents.
Ronel Paul Légonaïve, RFI.
Jovenel Moïse l'antibourgeois, Jovenel Moïse le bâtisseur, Jovenel Moïse le menteur, entendait-on? Que retenir de sa présidence qui a, dès le début, été tumultueuse, Marcel Dorigny?
Alors, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui a gagné de l'argent beaucoup par une exploitation agricole, par une exportation de bananes. Alors, paraît-il, bio, écolo, on dirait maintenant. C'est la publicité qui le disait. Bien sûr, oui, c'est vrai. Mais je rappelle quand même une chose, qu'il a été élu au premier tour.
Une élection qui a été contestée.
Bien sûr, une élection contestée avec une très faible participation, mais un président élu au premier tour en Haïti, c'est exceptionnel. Ça a laissé entrevoir peut-être un mandat paisible, un mandat conquérant. Et c'est exactement le contraire.
Exactement.
On l'a très vite accusé d'être du côté des spéculateurs, du côté des financiers qui détournaient l'aide internationale, qui
détournaient
le Pétro-Caribé, bien entendu. Là, c'était l'énorme scandale, mais c'est pas le seul. L'aide internationale qui est arrivée pour la reconstruction après le séisme, ben on n'a pas vu beaucoup de reconstruction. Il y en a eu quand même, mais pas au niveau des investissements internationaux. Bon, c'est une des accusations les plus terribles, ça a été ça. Ça a été peut-être pas lui d'être corrompu, je pense pas qu'on l'ait dit, je n'en sais rien, mais d'avoir couvert un ensemble, d'activités, d'évaporation de l'aide internationale. On sait pas où c'est passé. Les routes sont toujours en piteux état, les maisons écroulées, on reconstruit au hasard, sans plan d'ensemble.
Qui a contribué aussi d'une certaine façon à l'explosion de cette insécurité, à l'émergence des gangs.
Bien sûr. L'insécurité qui est généralisée en Haïti actuellement, moi je connais beaucoup de gens qui ne veulent plus y aller en ce moment, facilite l'effondrement de l'État, à supposer qu'il n'ait jamais existé, mais enfin bon, il y a un gouvernement, une police, etc. L'insécurité, elle est là, d'autant plus que la pauvreté s'est aggravée. On ne peut pas dire qu'elle a été créée, la pauvreté, elle est là quand on va dans les faubourgs de la banlieue de Port-au-Prince, on voit les bidonvilles, on voit la famine, on voit l'horreur. Bon, et les queues dans les magasins d'alimentation.
Et cette insécurité, c'est une des priorités, un des chantiers que s'est fixé le nouveau Premier ministre Ariel Henry, qui avait été nommé, on le rappelle, 2 jours avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il a pris ses fonctions cette semaine. D'une certaine façon, est-ce que l'on peut dire qu'il perpétue la présidence Moïse, puisque c'est Jovenel Moïse qui l'avait choisi. Un autre, Claude Joseph, avait le pouvoir jusque-là. La communauté internationale s'est détournée de lui. Ariel Henry arrive. Perpétue-t-il cette présidence Moïse?
Nous verrons par la suite. Pour l'instant, c'est évident qu'il est issu de Jovenel Moïse. C'est Jovenel Moïse qui l'a nommé en remplacement d'un Premier ministre qui était encore en fonction. Je rappelle que Henry n'était pas encore investi. Il pouvait très bien ne pas être confirmé. Il l'a été, un peu par la communauté internationale. Il a pris ses fonctions. L'ancien Premier ministre s'est retiré, prend les affaires étrangères. Ben, nous verrons la suite. Est-ce qu'il va se démarquer des quelques années qui viennent de s'écouler, dont n'oublions pas, l'historien ne fait pas de prédiction.
Et alors justement, l'historien, vous parlez des États-Unis. On peut dire un petit mot de ces liens entremêlés, compliqués entre Haïti et les États-Unis. Là, aujourd'hui, les États-Unis soutiennent Ariel Henry et poussent aussi à des élections. Expliquez-nous ces liens qui sont très importants.
Les États-Unis sont depuis longtemps la puissance tutélaire. Les États-Unis ne veulent pas intervenir dans les affaires courantes d'Haïti, mais dès qu'il y a des troubles, ils interviennent d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une intervention directe. On débarque, l'armée arrive et on prend le contrôle du pays. Ce qui s'est passé en 1915, jusqu'en 1935 quand même, 34. Plus récemment, de façon plus insidieuse, les États-Unis sont toujours présents. Non pas parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs à défendre. Il n'y a pas grand-chose à défendre en Haïti, malheureusement. Mais ce qui pose problème aux États-Unis, c'est l'insécurité, l'instabilité, l'immigration. Ils ne veulent pas voir arriver les boat people en Floride. Il y a une très forte communauté haïtienne aux États-Unis, 1 million, 1 200 000 peut-être, on ne sait pas bien. On ne veut pas que ça continue. Donc si les troubles s'aggravent, les États-Unis interviennent de multiples façons. Pour l'instant, l'intervention elle est diplomatique.
Envoyé spécial d'ailleurs nommé hier pour Haïti.
Un ambassadeur envoyé spécial auprès de Haïti aujourd'hui, et bon, envoyé hier effectivement. Ben c'est une tradition. Alors, je rappelle quand même que les États-Unis ont supplanté la France dans l'influence directe sur Haïti depuis la fin du 19e siècle.
Et ce sera le mot de la fin, puisqu'on verra aussi comment les choses évoluent. Est-ce que ces élections, le 26 septembre, telles qu'elles avaient été fixées par Jovenel Moïse avant son assassinat, se tiendront ? ou pas, en tout cas la communauté internationale, on le disait, l'ONU et les États-Unis poussent en ce sens, la France là aussi de son côté rappelé. Merci beaucoup Marcel Dorigny pour votre éclairage historique et contemporain sur cette situation en Haïti, donc à l'occasion des obsèques nationales aujourd'hui de Jovenel Moïse à Cap-Haïtien. Merci aussi à Godson Pierre, Donald Germeus et Marie Normand, à la réalisation Hélène Avril, rédaction en chef Sylvie Noël. À lundi.
Ce samedi sur RFI.